Fashion Week, shooting, agence, diktat de la beauté, ivresse de la maigreur, projecteur. Mais alors, de quoi est vraiment fait la mode? En constante ébullition créative, la mode est un monde qui intrigue, fascine et suscite chez nous tous beaucoup de fantasmes. Je m'appelle Héloïse Giraud, j'ai été mannequin pendant presque 10 ans. J'ai défilé tant à New York qu'à Londres, Milan et Paris. J'ai fait la couverture de magazines, j'ai voyagé dans l'univers de la mode. J'ai beaucoup donné pour elle. Alors laissez-moi vous emmener dans l'envers du décor. Bienvenue dans Mannequin etc. Un podcast énergie. Pour cet épisode de Mannequin etc., je reçois cette fois un mannequin homme. Bonjour Mathias, merci d'être avec nous.
Bonjour Héloïse, merci beaucoup de m'accueillir.
Alors Mathias, tu as 26 ans,
c'est
tu
ça.
Es d'origine franco-marocaine, mais petit, tu as vécu à Sarasota, en Floride, aux États-Unis.
Exact.
Et à Mougins, dans le sud de la France.
C'est ça.
Tu commences ce métier en 2016, à l'âge de 19 ans donc.
Ouais.
Jusqu'à présent, tu as marché pour des très grandes marques, comme Jacquemus, Valentino ou Balmain. Tu as aussi shooté les très remarquées campagnes des maisons Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Levi's, Valentino ou encore Versace. T'as un très beau pédigré. Hein.
Ça va.
Tu as aussi fait plusieurs éditos assez pointus, comme le GQ, le Elle Hong Kong ou le Numéro. Alors, on a shooté ensemble, toi et moi, pour un lookbook il y a un an. Je te connais un petit peu et je ne doute pas que tu aies mille anecdotes à nous raconter sur ta carrière. Mais avant de commencer, je vais te poser une question que je pose à tous mes invités, à savoir la mode, en trois mots, selon Mathias El-Koulali.
La mode en trois mots, selon moi. Artistique,
mm-hmm.
rapide mm-hmm. et passionnant.
Rapide dans la mesure où la carrière d'un
mannequin est rapide. Ouais, ça va vite. On ne sait jamais ce qui va se passer demain, pas après-demain. On est, c'est une vie assez rapide, quoi.
D'accord. Et d'ailleurs, on est très curieux de savoir comment est-ce que tu es devenu mannequin. Est-ce qu'on t'a repéré à quel âge c'est arrivé? Enfin, raconte-nous comment c'est.
Alors, ma première expérience, c'était en Californie. J'étais parti à 19 ans pour bosser en restauration. C'est l'époque où j'étais encore serveur, cuisinier. Et j'allais toutes les semaines dans un lave automatique à West Hollywood, et j'y vais pour laver mes vêtements, tout ça, et j'attends devant avec mon café, ma cigarette, et un photographe qui débarque avec deux mannequins, qui commence un shooting un peu old school dans la laverie, et moi, très curieux, je regarde ce qui se passe à l'intérieur, et nos regards se croisent avec le photographe qui sort, qui vient me voir et qui me dit « Are you a model ?» Je dis « Non, I'm not a model, I'm a cook, waiter, but not model. » Il me dit « Wait a second. » Il va dans le coffre de sa voiture, il me sort un costume rose. Il me dit, do you want to try this on? Yeah, for sure, avec plaisir. Je mets le costume, il me va comme un gant. Il me dit, attends, mets-toi avec tes deux autres mannequins. Je m'y mets, j'ai commencé à shooter, ça a duré une demi-heure. Ça a été la première expérience dans le mannequinat en Californie à 19 ans.
C'est génial, qu'est-ce qui s'est passé après coup?
Et après, lui m'a mis en contact avec Next de LA. Et j'ai eu derrière 2-3 éditos en Californie à 19 ans. Mais j'ai pas signé de contrat à ce moment-là. Et au bout de 2 mois, je suis rentré à Cannes. Et c'est vraiment à Cannes que ça a pris. Parce qu'on m'a mis sur un concours qui s'appelle le Enjoy Model Contest. Et j'ai gagné ce concours-là, ce qui m'a permis de signer avec Metropolitan à Paris, juste derrière, 3 mois après.
D'accord. Est-ce que c'est un métier auquel tu avais déjà pensé ou pas du tout?
Pas du tout. On m'a souvent dit, en étant serveur à Cannes pendant l'été, on reçoit beaucoup de touristes, beaucoup d'Américains, qui me disent, tu devrais devenir acteur, mannequin. Mais ça m'a jamais... Vraiment attiré depuis gamin, c'était pas le truc que je voulais faire. C'est à force qu'on m'en parle, je me dis, faut que je le fasse au bout d'un moment. C'est le destin force.
T'avais pas fait d'études, enfin tu faisais pas d'études.
J'ai arrêté les études assez jeune, moi, à 16 ans. J'ai commencé à bosser à 16 ans.
Ah.
Et ouais, je suis parti très jeune de la maison, ouais, 18-19 ans.
D'accord.
Pour aller voyager justement grâce à la restauration.
Tu signes chez Metro?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu des tests à faire? Si tu en as eu, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un test, est-ce que tu peux leur expliquer? Et est-ce que aussi tu as eu besoin d'un relooking ou ce genre de choses?
Alors moi, j'ai eu la chance de... Non, je n'ai pas eu besoin de relooking ou autre. On m'a vraiment pris comme j'étais. J'ai toujours les cheveux longs depuis gamin. Là d'où je viens, on m'appelle Mowgli. Donc j'ai toujours eu ce truc un peu mec cheveux longs, bronzé, du sud. Donc quand je suis arrivé à Paris, ça a été c'est les premiers tests, tout ça. Un test shoot, c'est faire des shootings avec des photographes. Et bref, remplir ton book de plein de styles de photos différentes pour ensuite montrer ces photos aux clients, aux directeurs de casting, pour qu'ils aient un aperçu un peu de ce que tu rends à la caméra, quoi. Mais ouais, non, c'est parti de ça. En fait, test shoot au début. Mm-hmm. Et je faisais des une semaine par-ci, trois jours par-là à Paris pour remplir un peu mon book, rencontrer les directeurs de casting, tout ça. Mais ça n'avait pas pris. Donc, j'étais revenu très vite, moi, sur la Côte d'Azur. Et j'ai fait beaucoup d'extras à Cannes en restauration. Et ensuite, je suis parti vivre à Londres pendant un an. Donc, j'ai mis en pause ce truc de mannequin en me disant, c'est trop aléatoire. Ça ne marche pas assez pour que je puisse vraiment tout arrêter et faire que ça. Donc, je suis monté à Londres. J'ai bossé en restauration à Londres pendant un an, où on m'a repéré encore une fois en tant que serveur là-haut. J'ai bossé avec des petites marques de clients qui venaient dans mon restaurant que je servais. Donc là, ça a repris un petit peu. Derrière, je suis parti en Australie, je me suis fait une boule à Z. Mes agents, ils m'ont tous appelé en rage. Mais Mathias, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fait une boule à Z, là? Ça va pas la tête? Et nous, on fait comment avec les clients? Moi, j'ai dit, non, mais les gars, c'est trop aléatoire pour moi. Je préfère aller à l'autre bout du monde, voyager, faire mon truc en Australie. Et quand je reviens, j'aurai les cheveux mi-longs et on reprendra. Et quand je suis revenu derrière, là, je me suis mis à fond dedans. Je suis monté à Paris. Bon, ça a été très dur au début. J'ai dormi sur un canapé. Sur le canapé de l'agence, de mon agence mère de l'époque, qui était Enjoy, Enjoy Models, que je remercie fort, d'ailleurs, Olivier, le patron de l'agence, de m'avoir accueilli sur son canapé, quoi.
Le canapé de l'agence.
De l'agence. C'est-à-dire que c'était vraiment le canapé de la salle d'attente. Je dormais sur ça pendant un mois et demi, deux mois.
Qu'est-ce qui a permis de l'explosion? C'est quoi? C'est un shoot? C'est un client qui s'est amouraché de toi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça a vraiment été le fait de rencontrer tous les directeurs de casting. Et c'est là où ça m'a permis de travailler régulièrement, faire mes premières Fashion Week, mes grosses Fashion Week avec qui j'ai bossé pour Jacquemus, tout ça, et Yamamoto. Et ça m'a vraiment catapulté. Et derrière, j'ai pu prendre mon petit appart et vraiment vivre de ça à plein temps, quoi.
Le premier shooting assez fort et assez emblématique de ta carrière, il s'est passé avec qui, avec quel client?
Je dirais que c'est pas un shooting, je dirais que c'est un défilé.
Ah.
C'est le défilé Jacquemus qui s'est passé au Calanque de Sormiou. C'était une des premières collections hommes, si ce n'est pas la première, au Calanque. Et en fait, il y a une image qui a été prise en backstage de moi en train de sourire avec sa chemise jaune. Derrière, j'ai pas arrêté de bosser pendant 6 mois, quoi.
Au début, quand tu démarres le mannequinat et que tu pars à droite, à gauche, à Londres, en Australie et que tu reviens, tu prenais vraiment le métier de mannequin au sérieux
ou non.
Non,
justement. Moi, je pensais que c'est très aléatoire comme métier et qu'on ne pouvait pas vraiment vivre de ça, en fait.
Ouais.
Moi, dans la tête, ce qu'il y avait que de vrai, c'était ça, travailler dur tous les jours en tant que serveur ou autre pour gagner sa vie. Je me disais, c'était trop beau pour être vrai, de vraiment gagner sa vie régulièrement avec le mannequinat. J'y croyais pas, quoi, au début.
Ouais, t'y croyais pas. Et aujourd'hui, comment tu vis ce métier?
Je le vis à fond. Je trouve que c'est une chance de faire ce que je fais. Donc, je le fais bien. Je kiffe, en fait. Je trouve que c'est une chance. Comparé à la restauration, c'est une chance de ouf. De faire ce métier, donc je le fais avec grand plaisir et j'adore, je m'implique énormément avec toutes les marques, c'est un kiff total.
Ouais, c'était une de mes questions, comment est-ce que tu considérais ce métier, si c'était un métier, un jeu ou une chance?
Ah ouais, une chance et un jeu, et un métier. Et chance, jeu, puis métier.
Ouais, je comprends.
Ouais, c'est beaucoup de plaisir. Ouais. Après bon, ça reste un travail, hein. Mais c'est beaucoup
ludique.
De plaisir, ouais, c'est ludique, c'est... tes ondes, ta vibe sur le shooting, la symbiose, les équipes, les grosses équipes. C'est un kiff. Moi, j'adore.
Tu m'as dit qu'on t'avait arrêté à LA, on t'a proposé d'être mannequin, et puis ensuite, on t'a reproposé de l'être à Londres, puis
exact.
En Australie. Pourquoi, selon toi, on t'a arrêté, toi? Est-ce que tu considères que tu as le physique mannequin type?
Ouais, bah maintenant que j'y baigne et que je vois tous les jours des mannequins, ouais, j'ai quand même ce physique type qui est d'être long et fin, avec une tronche un peu atypique, qui sort du lot, je dirais. Je suis très androgyne, mais c'est surtout ce côté, ouais, long et fin.
Est-ce que c'est les critères qu'on demande et qu'on exige aux filles sont à peu près les mêmes que ceux qu'on exige aux hommes, à savoir être grand? Évidemment. Mais d'ailleurs, toi, tu mesures combien, par exemple?
Moi, je fais 1m90.
Ok.
Ouais, 1m90, ce qui est bien, ce qui est un peu trop grand. J'ai été cancel de beaucoup de défilés parce que j'étais trop grand. Parce que tous les mannequins faisaient 1m87, 88. Et moi, avec les autres gars, ça faisait pas quelque chose d'homogène sur le défilé.
Et puis, j'imagine que, quelque part, les fringues sont trop petites, les pantalons
aussi,
trop courts.
Aussi, ouais, aussi.
Ouais.
Avec Ami, j'ai eu la chance de faire des campagnes avec Alexandre Matussi. Et il me voulait pour son show. J'ai fait deux fois des fittings avec lui. Des fittings, c'est en gros, c'est essayer les vêtements de la collection qu'il va faire pour le défilé. Et les deux fois, les vêtements étaient un peu trop courts, quoi.
Ouais. On vous demande d'être mince ou d'être... Enfin, le in-shape qu'on exige pour les femmes. Donc, quand on dit d'une fille qu'elle est in-shape, c'est qu'elle est mince, quoi. Voilà, elle fait un 34-36, quoi. Mais vous, le in-shape, pour vous, les hommes, c'est d'être musclé, d'être menu, d'être mince, d'être...
Alors, moi, quand j'ai commencé, c'était plus mince. Pas avoir de gras. Mais au final, je trouve que nous, les gars... Moi, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de mannequins par rapport à ça. On est mince, mais sans le vouloir. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup et on grossit pas, quoi. Mmh. On grossit pas, on fait pas gaffe à ça. On nous dit, hein. Enfin, je veux dire, moi, mes bookers m'ont dit non, on ne prend pas trop de poids. Même quand j'allais à la salle, j'ai commencé à prendre un peu de poids. On me dit non, la matchasse, ok, c'est peut-être la limite. Calme-toi un peu, va pas faire du bodybuilding non plus.
Ouais.
Mais il faut rester assez fin, quoi.
Mais on ne vous demande pas effectivement d'être musclé. Est-ce qu'il y a une différence d'ailleurs entre le physique d'un mannequin qui défile?
Bien sûr.
Et celui d'un mannequin qui fait, j'en sais rien, la photo ou quand, ouais, juste pub, TV, ce genre de choses?
Exact, donc mannequin haute couture, il faut être long et fin, pas trop trop musclé. Mais ensuite, ouais, tu as les mannequins aussi photo qui font tout ce qui est campagne caleçon, Calvin Klein, tout ça. Où là, ouais, il faut que tu sois un peu fit, un peu plus musclé, quoi. Ça c'est clair.
Et au niveau du style, est-ce qu'on te demande d'avoir un style vestimentaire particulier en tant que mannequin homme?
Au début, on me demandait pas spécialement d'avoir un style particulier, juste rester toi-même. Mais là, depuis un an ou deux, mes bookers commencent à me dire « Bon, Mathias, il va falloir que tu fasses un petit effort vestimentaire, que tu arrives un peu plus, entre guillemets, homme au casting, tout ça. » Style blazer, Doc Martin. Donc, je commence à faire un effort sur ça, ouais.
Avant, t'avais un style vestimentaire, enfin, tu le travaillais, ton style vestimentaire, ou tu t'en es toujours un petit peu foutu?
Je m'en suis toujours un petit foutu, ouais, comme tu dis. Non, j'ai jamais fait trop gaffe à ça. Mais là, voilà, comme je t'ai dit, depuis deux ans, même je m'y intéresse. C'est-à-dire que depuis que je suis dans ce milieu-là, je suis très curieux de la mode, de ce qui se passe. C'est-à-dire que là, maintenant, avant de sortir chez moi, je regarde un petit peu quand même ce que je porte. Ouais. Je fais un minimum gaffe.
Et t'as trouvé ton style vestimentaire, tu penses?
J'ai un style qui change tous les deux, trois mois, en fait. Là, t'as vu, je suis arrivé avec un béret, blouson en cuir.
Oui, je t'avais jamais vu avec un béret.
Bah, moi non plus, ça fait trois jours là que je le porte.
Ça te va pas mal, hein?
C'est gentil, merci. Non, je change, ouais, toutes les 2-3 mois, j'aime bien tester plein de nouvelles choses.
D'accord.
Ouais.
Toi qui as beaucoup défilé, est-ce que, à ton avis, les Fashion Week hommes se déroulent de la même façon que les Fashion Week femmes?
Ouais, je pense qu'en soi, ça se déroule de la même manière. Après, l'ambiance n'est pas la même, à ce que j'ai vu. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire des castings pour la Fashion Week, on se retrouve à une centaine à faire la queue devant une marque pour faire le casting. Et ça a toujours été très familier, très dans la rigolade. C'est-à-dire qu'on se parle entre mannequins. C'est toujours très, très chill, très détente. Ça se fait des blagues. T'as pas cette pression de, entre guillemets, la compétition de qui va être pris, qui ne va pas l'être. Tandis que les femmes, j'ai pu faire des castings aussi avec, pendant les défilés femmes, en fait, les Fashion Week femmes. Où là, c'est une autre ambiance, ça se parle moins, c'est beaucoup plus calme, silencieux, ça se regarde un peu de haut en bas. C'est une autre vibe, c'est quelque chose d'autre. Mais moi, j'adore casser un peu l'atmosphère. Donc quand j'arrive dans ces castings-là, je parle avec les filles. Tu sais, je mets tout le monde un peu détente, j'aime bien faire des petites blagues à droite à gauche, parler en anglais quand j'arrive, et au final, la nana, elle parle français. C'est une autre ambiance.
Moi aussi, je le ressens. Enfin, je me rappelle, j'avais fait un casting... Et je voyais les mecs se taper dans le dos, se faire des blagues, ouais. Et beaucoup moins de rivalité. Les mecs étaient vraiment chill.
Ouais.
Et je me suis dit, est-ce que c'est un truc parce que ce sont des hommes et qu'ils prennent ça de façon plus légère, que pour eux c'est une chance? Alors que nous, les femmes, il y a un truc de vraiment, on peut faire carrière et ça peut devenir un métier, enfin une vie en fait.
Ouais, c'est clair. En plus, il faut savoir que dans le mannequinat, c'est un des métiers où les femmes sont vachement mieux payées que les hommes. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup plus de compétition. Et donc, ouais, il y a des choses qui rentrent en compte en mode, bon, faut que je fasse gaffe. Ouais, c'est plus détente.
Moi, quand j'ai commencé ce métier, je sais que c'était pas un métier démocratisé en France.
Enfin, ouais.
C'est pas quelque chose qu'on pensait faire. Et je pense qu'avec les réseaux, les filles et les mecs aussi pensent davantage à l'éventualité de faire ce métier.
Ouais, c'est vrai. Et même moi, j'avais du mal à l'époque, quand j'étais mannequin, entre guillemets, confirmé, que je faisais ça à plein temps, j'avais encore du mal à dire aux gens, quand ils me demandaient « Tu fais quoi dans la vie ?» à dire « Je suis mannequin ». Pourquoi ? Bah, c'est peut-être ce côté un peu étiquette de la mode... Ah, mais excuse-nous, monsieur. Style, ouais, en gros, t'es juste beau, t'es bête.
C'est les a priori qu'ont les gens.
Ouais, ces petits a priori, mais c'était plus ce côté un peu direct, on te met sur un piédestal. Direct, style, toi-même, tu te mets sur un piédestal devant quelqu'un, alors que pas du tout, c'est vraiment ce que tu fais, quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'au début, ouais, j'étais plus en mode. Je travaille dans la mode. Mais voilà, bon, maintenant, je l'assume complètement. Mais peut-être qu'à ouais, à cette époque-là, les gens avaient cette étiquette du milieu de la mode qui était assez bizarre.
Oui, c'est, en fait, tu avais l'impression d'être présomptueux, d'être prétentieux en disant que tu étais mannequin.
Limite, c'est ça. Alors que pas du tout. Tu me connais, c'est pas dans ma nature d'être comme ça. C'était chiant au début. Mais maintenant, je l'assume totalement parce que je fais ça à plein temps. Et les gens le reçoivent mieux.
En mode, ils sont
vachement plus curieux du métier et kiffent, en fait.
Est-ce que tu penses aussi que les gens te considéraient... Enfin, moi, je sais qu'en tant que mannequin, en tout cas femme, il y a ce cliché de la plante verte. Est-ce que pour l'homme, c'est le cas aussi? Est-ce qu'on se dit, ok, bon, il a que sa gueule et en fait, il est trop con?
Ouais, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire ça. Et c'est ce pourquoi aussi, moi, j'ai toujours voulu casser un peu ce truc d'avoir plus un caractère qu'un physique. Et c'est ce pourquoi, avec les directeurs de casting, les marques et tout ça, j'ai toujours essayé de briser ce côté un peu mannequin qui parle pas, qui est sur le côté, qui
attend son tour.
Ouais, qui attend son tour. Non, moi, il faut que je discute. J'adore les gens, j'adore les êtres humains, j'adore parler avec le régisseur lumière comme avec le créateur. C'est que tout le monde soit impliqué. C'est là où tu passes des bons moments.
Et aujourd'hui, tu assumes désormais. Tu le dis que t'es mannequin.
Ouais, de ouf. Là, maintenant, ça fait 5-6 ans que je fais ça à plein temps. Ouais, là j'assume totalement et j'en suis fier.
En tant que mannequin femme, moi, quand j'ai commencé dans le métier, on m'a appris à défiler. Je passais à l'agence une fois par semaine et on m'apprenait à marcher sur des talons avec ma bouqueuse qui me regardait. Elle me disait, là, tu dolines trop de la tête ou fixe tes hanches, fixe tes épaules et tout. Bref, donc c'est une marche qui est un peu contre nature, en tout cas pour nous, d'autant qu'en plus on marche sur des talons qui sont relativement hauts. Parfois, c'est des prototypes où tu fais un 40 et on te file un 38.
Ah ouais, non, ça c'est chaud.
Bref, c'est chaud. Est-ce que vous, on vous apprend aussi à marcher? Est-ce que ton agent t'a appris à marcher?
Les premières Fashion Week, non, je suis allé un peu à la volée. Et ensuite, quand tu passes en agence pour dire bonjour au booker et tout ça, ça peut arriver qu'ils te regardent et qu'ils te disent « Attends, vas-y, montre-moi un petit peu comment tu marches. » Donc, tu marches une fois, deux fois, ils disent « Attends, non, on va modifier ça. » Donc, nous, pour les hommes, c'est rester très droit, épaule assez droite. Tout dépend de la marque, après. Il y a des marques qui aiment bien les démarches un peu épaules baladantes. Moi, mon booker, je me rappelle, il m'avait fait quelque chose. Il m'avait mis un livre sur la tête. Il m'avait dit « Tiens, marche avec le livre sur la tête et il faut pas qu'il tombe. » Et j'y arrivais pas. Et bon, après, du coup, je m'entraînais à la maison à marcher avec le livre sur la tête comme ça, marcher bien droit, menton un peu baissé. Et voilà. Non,
ouais. Ça t'est déjà arrivé de marcher sur des. Enfin, de marcher avec des talons?
Des bottes. Ouais. Des grosses bottes avec des semelles de style 15 cm, ouais.
Ok.
Des talons, non?
Non. Ouais.
Non. Enfin, j'ai déjà essayé. C'est une galère. Mais des bottes, ouais. Des bottes. En défilé pour Discord à Milan. C'était une époque où ils mettaient, où ils faisaient des chaussures très très hautes.
Avec plateforme.
Voilà, exactement, plateforme. C'était assez bizarre. Moi, qui suis déjà grand, en plus là avec ça, t'as l'impression que t'as des échasses.
T'es à l'aise en défilé? C'est quelque chose que t'aimes?
Ouais, j'aime bien ce côté en fait où t'es derrière le rideau. Le défilé commence et t'as le mannequin en face de toi qui part. Là, t'as un mec du staff qui est là juste derrière le rideau avec toi, qui te regarde, qui te dit bon c'est bon, t'es prêt là. Et j'ai un doigt, ouais, super, super. Et qui te dit, OK, 3, 2, 1, go. Là, t'as ton cœur qui se. Tu sais, qui se. Tac. Tu fais, OK, allez, on y va. Bam. Et cette sensation que t'as, cette adrénaline, elle est trop agréable. T'es coupé un peu du monde pendant quelques secondes devant tout le monde. Faut que tu gardes une tête neutre, enfin, que tu sois à l'aise. Moi, j'adore cette ambiance. Cette ambiance. Et l'après aussi. L'après, quand t'as fini de défiler, que t'arrives derrière et que tout le monde s'applaudit, c'est génial. Après, c'est des grosses équipes, c'est-à-dire que nous, on est 20 mannequins à défiler, peut-être 30, mais il faut savoir que derrière, il y a toute une équipe, il y a les maquilleurs, les coiffeurs, les régisseurs, les personnes qui ont mis en place le défilé, avec qui t'as passé des super bons moments, avant et après. C'est un délire, moi j'adore tout ce qui est défilé, tout ça.
Et est-ce que t'as déjà raté d'ailleurs un défilé? T'as défilé pour une marque, et à la fin du défilé, tu te dis « Ah merde, j'ai pas réussi ce défilé, ou je l'ai pas senti bien ». Ou alors tu vois la photo après coup et tu te dis « J'ai une tête de fruit, ça va pas
». Ouais. Là la dernière saison, là.
Ah oui?
Là, la dernière saison, pas celle-là, pas celle de janvier, celle d'avant. J'avais défilé pour Amiri.
Ok.
Améry, avec qui je bosse régulièrement d'ailleurs. Sur ce défilé-là, c'était au Jardin des Plantes. Je sais pas, on fait 5-6 répétitions, c'était un gros défilé. Et c'était très simple ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que t'as une grosse plateforme, et au bout de la plateforme, t'as un mannequin qui va à droite et qui revient, et le mannequin de juste derrière, il va à gauche et il revient. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on devait être 50, un truc comme ça. Et on fait les répètes, tout ça. Moi, il fallait que j'aille à gauche. Comment se défiler, tac, il y a un monde fou. Je vois pendant que je marche, il y a des stars sur le côté, tout ça. Et ça met une petite pression, alors que j'ai l'habitude, je veux dire, j'en ai fait des défilés. Mais j'ai la tête ailleurs. Et au moment où j'arrive au bout de la plateforme, et qu'il faut que j'aille à gauche, hein, je sais pas, je suis ailleurs, moi je tourne à droite. Ça a paniqué le défilé, mais ça a fait que 3 mannequins d'affilée sont partis à droite.
Ouais.
Et moi j'étais en pression après. Je vais voir le staff d'Amiri, je dis, putain les gars, je me suis loupé. Moi je dis, t'inquiète Mathias, ça va, ça s'est pas vu quoi. Ouais. Ça va, c'était cool. Mais je m'en suis voulu, je me rappelle, pendant toute l'après-midi. J'en parlais à tout le monde. Je dis, t'as vu la boulette que je viens de faire? Et voilà, ça c'était la première boulette, c'était la dernière. J'étais ailleurs.
Ouais, je comprends.
J'étais comme sur un petit nuage à la fin. Et en plus, au moment où je tourne à droite, je fais 2 mètres. Hein. 2 mètres et direct, je me dis, oh, non, je me suis loupé. Et j'étais à 2 doigts de faire style un demi-tour, tu sais, un 180 en plein défilé, pour partir de l'autre côté. Je dis, non. Commence pas à vouloir faire du breakdance. Continue. va au bout de ton truc, là. Et
assume ta bêtise jusqu'au bout.
Exactement.
Ouais, je vois. Et d'ailleurs, est-ce que tu regardes quand tu marches, est-ce que tu regardes les invités? Parce que là, tu disais que t'avais vu des stars, etc. Et ça t'avait mis la pression. Alors, généralement, tu regardes?
Non, en fait, tu peux pas, parce que faut vraiment que t'aies le regard fixé en face de toi. Là, c'était vraiment, avant d'arriver sur la plateforme, t'es un peu sur la droite, t'es pas au milieu.
Mm-hmm.
Tu montes des escaliers. En montant les escaliers, tu vois qui t'as en face de toi, sur les tribunes en train de regarder. Et c'est là où j'ai vu quelques rappeurs américains, et c'est là où je suis parti un peu ailleurs, je pense.
Mais
non, en général, sur les défilés, non, tu regardes vraiment en face de toi, t'as pas trop le temps de... Ou alors, quand t'arrives au bout du podium, où tu dois faire ta petite pause pour retourner en arrière, là, tu peux balayer du regard quelques gens, mais non, tu vas pas passer ton défilé à fixer les gens, quoi, non.
Non, et puis c'est hyper, hyper traumatisant. Enfin, moi, je sais que là, tu vois, je porte des lunettes, donc je suis myope, je vois rien.
Ouais.
Et en défilé, je mets pas mes lentilles. Je me dis, si tu mets tes lentilles, donc tu as la possibilité de voir les gens qui te regardent. Déjà que quand tu t'es aveuglé par les éclairages quand t'es sur le runway.
Si
j'avais mes lentilles, si je pouvais voir, je pense que j'aurais la curiosité de regarder et je pense que je m'arrêterais au milieu du runway et je ferais une syncope.
Ouais, ça te mettrait encore plus de trac, quoi. Mais je te comprends tout à fait. Moi, j'étais myope. Donc, j'ai eu cette chance aussi de pouvoir faire mes défilés un peu flous.
Oui.
De pouvoir tout voir, ça te met un trac en plus.
Clairement, moi, je me rappelle, c'était un défilé pour Balmain. Là, je vois arriver footballeurs, Paul McCartney, bref, des chanteuses américaines qu'on connaît toutes. Enfin, je vais pas les nommer, mais voilà. Et c'était genre 5 ou 10 minutes avant le défilé. Et je me suis dit, mais non, je peux pas avoir ça. Moi, si je vois ça, je vais pas sur le runway, en fait.
Ah, ouais.
C'est un trac immense.
On a eu la chance d'être myope, du coup.
De
voir un peu flouter en 240p autour de nous.
Nous deux, on s'est rencontrés sur un shoot.
Ouais.
Ça t'arrive souvent de shooter avec des femmes ou tu shootes plus souvent tout seul? Parce que j'ai l'impression que, enfin moi, en tout cas dans ma carrière, je pense que 95% de mes shoots sont des shoots où je shoote seul. Alors que vous, les hommes, j'ai l'impression que c'est plus régulier. Vous shootez plus souvent à plusieurs que nous.
Ouais, moi, j'irais vraiment aller peut-être 70% seul ou avec des gars et 30%, voire 40% avec des filles, quoi.
Ouais. Et toi, tu préfères shooter seul ou à plusieurs?
Ah, moi, j'aime bien à plusieurs.
Pourquoi?
Plus on est, plus on rit. C'est... En plus, je me rappelle, quand j'avais commencé Makina, ce qui met un peu le trac quand tu commences ce métier, c'était pas forcément l'objectif. C'était pas forcément la caméra... C'était l'équipe que t'as derrière, en fait, qui te regarde. Ça peut être entre 5 et 15 personnes qui sont derrière la caméra à te regarder en mode, qu'est-ce qu'il va proposer, celui-là? Et donc, c'est plus ça qui met la pression que l'objectif, quoi. Donc, quand en plus, t'es plusieurs devant l'objectif, bon, t'es plus à l'aise. C'est, tu crées une symbiose, et ce qui fait que la journée passe plus vite, et c'est plus cool.
Je comprends. Est-ce que, d'ailleurs, tu t'es retrouvé déjà avec des gens, avec des mannequins... peu importe qu'il soit homme ou femme, avec lesquels il n'y avait pas de symbiose justement qui se crée.
Ouais.
Tu n'arrivais pas à créer un truc, tu n'arrivais pas à te marrer, tu n'arrivais pas, je sais pas, à faire des mêmes... Parce qu'en fait, les gens réalisent rarement que quand t'es en train de te faire shooter, il faut proposer tout le temps des choses en fait, aux photographes. Et qu'à un moment donné, en fait, quand ça fait 4 heures que tu shootes,
t'as plus rien
en stock, t'as utilisé tes deux bras, tes deux jambes, ta tête, et tu sais plus quoi faire avec eux.
C'est clair.
Mais donc c'est plus simple effectivement quand on est plusieurs, parce qu'on a plus d'idées, qu'on peut faire plus de choses à deux, enfin avec quatre jambes et quatre bras.
Ouais,
mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé effectivement avec des mannequins où c'était compliqué, où t'arrivais pas à créer un truc avec eux?
Ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, ça m'arrive pas souvent parce que j'arrive à cerner les... j'arrive à mettre à l'aise les personnes qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que si c'est un mannequin qui est très réservé, qui parle pas beaucoup, quelqu'un de timide, je vais aller un peu, je vais le brosser dans le sens du poil pour le mettre à l'aise lui et que ça se passe bien. Mais sinon, ouais, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des types qui... c'est des murs, quoi. C'est des mecs beaucoup trop compliqués pour engager une discussion, pour rebondir. Et donc, d'entrée, au bout de 20 minutes, tu te dis, bon, là, avec lui, ça va être compliqué la journée. T'essaies de te mettre à l'aise, de casser un peu de briser la glace. Mais ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive pas souvent parce que j'arrive justement à m'entendre un peu avec tout le monde et que ça se passe bien.
Moi, je me souviens de ce shoot qu'on avait fait l'année dernière. C'est vrai que t'es bon pour ça. Et quel est le shooting qui t'a le plus marqué, par exemple?
Le shooting qui m'a le plus marqué, c'est un shooting que j'avais fait à Milan pour Versace Jean Couture. C'était un gros shooting sur 4 jours. Mm-hmm. Et on était escortés par la police italienne dans les rues de Milan. Nous, on était dans une limousine avec le caméraman sur le toit. C'était une limousine où tu pouvais... comment t'appelles ça là où...
Décapotable?
Décapotable, mais s'il a un trou en fait dans le toit là et tu sors ta tête. Et donc on a fait ça pendant 2 heures et t'as l'impression d'être une star du rock and roll. C'est comme ça, tu cries dans les rues, tout ça, t'as les flics en face de toi qui t'escortent. Tous les Milanais, ils nous regardaient comme ça en mode mais c'est qui ceux-là? Ça a été une très belle expérience. T'as l'impression d'être un rappeur, quoi.
Oui, d'être le roi du monde.
C'est clair.
Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta vie de mannequin? Si tu devais choisir une chose.
Les voyages, hein. Découvrir plein de différentes cultures. C'est plus ce côté-là, découvrir beaucoup de gens. Ouais, voyager. Voyager.
Quel est le pays dans lequel tu shootes le plus? Donc, t'es représenté à Milan, à Paris et à New York.
Ouais, bon, après, j'en ai plein d'autres, hein, d'agences. J'en ai avoir une dizaine, mais ça, c'est les principales.
Ouais.
Où est-ce que je shoote le plus? En ce moment, Paris.
En ce moment, Paris?
Ouais, en ce moment, Paris. Il y a eu un temps où je shootais beaucoup en Suède, à Stockholm, l'Allemagne pendant un moment, mais principalement Paris, ouais.
T'es d'origine franco-marocaine.
Ouais.
Est-ce que tu penses que la diversité est assez bien représentée dans la mode masculine?
Ouais. Depuis que les réseaux sociaux sont là, Instagram et tout ça, c'est encore mieux. C'est encore plus diversifié, ce que je kiffe, comparé à l'époque. Mais ouais, complètement. C'était beaucoup moins diversifié. Et grâce aux réseaux sociaux, tu sais, t'as des marques qui faisaient des campagnes, il y a plusieurs, style 4-5 mannequins, que des blancs. Mmh. Grâce aux commentaires, style des gens, en fait, il n'y a pas assez de diversité. Nanana. Ben ça a permis, je pense, aussi aux marques de se réveiller un peu, de se dire, OK, attends, on va y mettre un peu de plein de choses, quoi, ouais. Tout diversifié. Donc moi, je pense que je suis arrivé au bon moment. Surtout que moi, ça se voit pas sur ma tronche que je suis franco-marocain. Les gens sont toujours un peu curieux de savoir d'où je viens parce que je le porte pas sur la tronche, en fait.
C'est vrai que t'as un truc eurasien presque, asiatique.
Exact. En hiver, on me dit souvent ça. Ouais. Comme l'été, quand je reviens en septembre après un été au soleil, on me dit brésilien, argentin. Non, c'est assez drôle. Ouais, ce côté un peu, on sait pas en fait d'où il vient celui-là.
Ouais. Toi, tu utilises ou pas Instagram comme un moyen de booster ta carrière?
Moi, j'ai toujours eu du mal à poster régulièrement tout ça. Et heureusement que j'ai mes bookers avec moi qui m'incitent un peu toutes les 2-3 semaines à me dire « Bon, Mathias, là, ça fait bientôt un mois, t'as pas posté, mets un petit truc quand même. » Parce qu'il faut savoir que les clients regardent vachement. À l'époque, il y a 2-3 ans, je postais régulièrement, mais là, ça fait 6 mois, 1 an que je suis vraiment pas assidu sur ça, alors que je devrais l'être. Parce que je rencontre plein de mannequins qui chopent des gros contrats parce qu'ils ont beaucoup de followers. Et que ça marche. Enfin, je veux dire, quand tu bosses avec une marque, ils savent que tu as 100 000 abonnés et que tu vas poster la photo derrière, ils savent qu'ils vont avoir une visibilité de ouf. Mmh. Donc, ils préfèrent privilégier ces mannequins-là qui ont 100K sur Insta plutôt que le mannequin qui a 4 000 abonnés. Et...
Pourquoi tu le fais pas du coup? Parce que t'aimes pas ça? Parce que c'est pas ton truc? Parce que t'y arrives pas? Parce que...
Ben, en fait, mon métier, moi, déjà, de base, c'est qu'on prenne en photo. Mmh. Si, en plus de cela, il faut que je sorte dans les rues de Paris avec des copains à moi et qu'ils me prennent en photo, style... C'est bon, enfin, je veux dire, je vis déjà de ça, je gagne mon argent grâce à ce beau métier.
Oui.
Je pourrais, hein. C'est-à-dire que je pourrais trouver un temps et le faire. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas dans cette optique. Je préfère profiter.
Je comprends. Tout à l'heure, tu as dit que tu exerçais l'un des seuls métiers où les femmes gagnent plus que les hommes. À ton avis, pourquoi vous gagnez moins que les femmes ?
Alors déjà, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'exigences physiques pour les femmes que pour les hommes.
C'est-à-dire ? Quel genre d'exigence ?
C'est-à-dire qu'en fait, les mannequins femmes, quand elles vont aller en casting, je pense que tu sais mieux que moi, mais bon, on va te prendre tes mesures sur beaucoup de castings, tandis que nous, les mecs, on ne nous prend jamais nos mesures. Les seuls moments où on m'a pris mes mesures, c'était au moment où j'ai signé avec l'agence pour qu'ils aient toutes les measurements de height, weight, tout ça là. Et c'est une fois. On ne l'a jamais refait en casting, alors que les femmes, oui.
Oui,
apparemment,
oui.
Il me semble.
Oui, et puis je pense qu'on a plus de pression. Et puis de la même manière que nous, notre hygiène de vie, elle est quand même, je pense, beaucoup plus sévère que la vôtre. Vous buvez.
Moi, après, je vais me prendre un kebab, je ne me fais aucun souci pour le lendemain, tu vois. Tandis que t'as des nanas, je sais qu'elles font gaffe à leur ligne de ouf.
Ah, bah oui. Bah, moi, je sais que mannequin, oui, je n'ai pas bouffé de McDo pendant des années. Je n'ai pas bouffé de kebab. Je faisais attention, l'alcool, c'était pas plus d'une fois toutes les trois semaines ou toutes les deux semaines.
Ouais.
On parle souvent des top modèles féminins, mais plus rarement des top modèles masculins. Est-ce que tu penses qu'un mannequin homme peut faire une aussi grande carrière qu'une mannequin femme ? Tu vois, on connaît toutes les mannequins des années 90, Kate Moss,
Naomi Campbell,
etc. Ou même plus récemment, tu vois des filles comme Cara Delevingne. Ou en France, on a Constance Jablonski, on a Cindy Bruna, on a ces filles-là. On a vraiment des grandes tops. Mais on parle rarement des grands top modèles masculin.
Ouais, c'est clair.
J'ai même cherché, en préparant notre discussion d'aujourd'hui, j'ai cherché en fait quels étaient les grands top modèles masculins d'aujourd'hui.
Ouais.
J'en connaissais un.
J'en connais peut-être deux.
C'est lesquels que tu pourrais citer, toi ?
Lucky Blue Smith.
Ouais.
Lui. Et Joao Knorr.
Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Il y en a que je connais pas.
Mais
tant que...
ils sont pas du tout aussi médiatisés que les femmes.
Que les femmes, ouais. Exact.
Toi, tu aimerais faire ce métier encore longtemps ? Qu'est-ce que tu as en tête aujourd'hui à l'égard de ton métier ?
Alors, j'aimerais bien le faire pendant encore longtemps, si c'est possible. Je compte emménager à New York d'ici peu pour tenter là-bas. Mais ouais, ça durera le temps que ça durera, quoi. Pour l'instant, non, j'y vais... comme j'y suis toujours allé en mode one again, j'y vais, ça prend pas... On verra, mais ouais.
Te laisses vivre.
Voilà, exactement, okay. Exactement.
Donc là, tu vis à Paris maintenant. Donc là, tu vas essayer d'aller vivre à New York.
Ouais, exactement.
Pour t'essayer là-bas.
Ouais, j'ai eu mon visa d'artiste là il y a quelques mois.
D'accord.
Et retenter là-bas parce que à Paris, c'est vrai que j'ai rencontré tout le monde, enfin quasiment tout le monde, tous les clients, les directeurs de casting, les marques, tout ça. Donc ça va être un nouveau départ en fait entre New York et LA.
Parce qu'effectivement là-bas, en fait, t'es beaucoup moins, pas connu. Quand je dis connu, c'est que l'industrie te connaît pas.
Voilà, exactement.
Contrairement à celle de Paris où on te connaît, quoi.
Et exactement. Bon, on connaît sans connaître. C'est-à-dire que les gens qui suivent vachement la mode là-bas, quand ils vont me voir arriver, bien sûr, je pense qu'ils vont m'en connaître. Mais bon, le marché, je le connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Donc ouais, c'est autre chose. Ça va être un nouveau départ.
Donc ça dit quand même quelque chose de ce milieu. Ça dit que c'est un métier qui valorise vachement la nouveauté.
Complètement.
Ce qui n'est pas le cas d'autres métiers plus classiques où justement on valorise l'ancienneté.
Ouais.
Donc, toi, tu le vis comment, ce truc-là ?
Alors, j'ai comme une impression que ça a toujours été un peu comme ça dans la mode, surtout pour tout ce qui est défilé, tout ce qui est fashion week, tout ça. J'ai l'impression que les marques sont vraiment à la recherche de la future petite pépite du mannequinat qui va durer une saison, deux saisons, trois saisons, voire plus. Et je peux comprendre qu'on doit un petit peu laisser la place aux jeunes qui arrivent pour tout ce qui est fashion week, tout ça. Moi, pourquoi je pars à New York ? C'est parce que ouais, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je pense, à Paris. Et juste découvrir un nouveau marché, découvrir de nouveaux clients.
Et voir si ça prend là-bas.
Ouais, voir si ça prend là-bas.
Comment est-ce que tu te comportes avec les clients ? Comment on travaille directement avec les clients ? Quelle est la façon de fidéliser ta clientèle ?
Alors, moi, je me rappelle quand j'avais commencé au tout début, là où j'ai réussi à entre guillemets, être, à me démarquer, à être fort, C'est pendant les Fashion Week, en fait, tu te retrouves avec des queues de 100 gars. Donc, tu arrives devant le client et ils sont en mode « Bonjour, oui, alors, je pourrais avoir votre book, s'il vous plaît, jeune homme. » Donc, les mecs donnent le book. Tu sais, ça reste très froid. C'est « Oui, bonjour, tenez, tac. » Il ouvre le book. « Ok, tu peux marcher, s'il te plaît ?» Il fait l'aller-retour. « Merci, au revoir. » Et moi, au tout début, je me dis « Attends, il faut que tu démarques. Il faut que tu crées un truc, là, avec la personne. » Donc, moi, j'arrive devant le directeur de casting et je t'en dis direct la main, quoi. Direct la main, bonjour, enchanté, Mathias. Ah, enchanté, vous allez bien ? Super. Vous avez votre book ? Bien sûr, avec plaisir. tenez, tac, et ils feuilletent. Après, bon, tu marches. Mais t'essaies d'installer ce truc un peu... naturel, copain. Enfin, on est là pour kiffer au final. On n'est pas là pour être tendu et être des objets en mode, bah, regarde, tiens mon book, marche, tac, tac. Donc, ouais, j'ai vraiment essayé d'installer ce truc de.
Oui, parce que finalement, c'est pas qu'une question de physique.
Ouais, exact. C'est une question aussi de charisme. C'est ça.
Parce qu'en fait, quand on met 100 mecs très beaux dans la même pièce, il faut bien trouver un moyen voilà.
Et c'est ça. Moi, au tout début, je voyais des mecs super beaux. Au tout début, j'étais en mode, mais attends, mais moi, j'ai aucune chance, moi, à côté de ça. Et c'est là où tu te dis, attends, il va falloir que tu te démarques un peu, que tu restes naturel et que tu sortes un peu du lot avec ta tchatch, avec ta façon d'être.
Aujourd'hui, tu arrives à vivre de ce métier.
Ouais.
T'en vis bien. Tu considères que tu gagnes bien ta vie.
Ouais, 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 ouais. Ça va.
Ça va, tu te plains pas.
Ouais, ça va.
Et est-ce que tu penses aussi que les gens, quand tu dis que t'es mannequin, ils se disent, ok, les gens pensent qu'on gagne énormément d'argent. Ouais. Et effectivement, c'est un métier où on peut gagner énormément d'argent, mais les gens oublient aussi qu'on peut ne pas bosser pendant des mois.
Ouais.
Mais est-ce que tu penses pas qu'eux aussi, dans sa tête, se disent « Ok, le mec est friqué ».
Ouais, de ouf. Bah, ça, je me rappelle, c'était les 2-3 premières années, surtout quand tu fais des Fashion Week. Tu sais, pas spécialement des campagnes. Il faut savoir que pendant les Fashion Week, les défilés, c'est pas ce qui est le mieux payé dans le mannequinat. C'est plus une expérience qu'autre chose. Et ça t'apporte vachement de visibilité de faire une Fashion Week. Donc, tu sais, tu fais un beau show et un beau défilé pour une certaine marque, ça peut t'apporter énormément de boulot dans les mois qui suivent. Ça, c'est cool. Mmh. Mais sinon, sur le défilé en lui-même, tu vas pas toucher tant d'argent que ça.
Bah, en fait, surtout la différence, je pense, entre les femmes et les hommes, c'est que nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de Fashion Week, contrairement à vous. Ouais. On a plus de Fashion Week et puis elles sont plus longues aussi. Enfin, ouais. J'ai l'impression qu'elles sont plus longues et qu'il y a plus de défilés. Je sais que c'était des périodes où je gagnais beaucoup d'argent, mais effectivement, t'as raison, un défilé, c'est pas ce qui paye le mieux.
C'est ce qu'il y a autour. Le showroom ou la campagne que tu vas dégoter grâce à ce show-là, parce que t'étais très belle sur ce défilé-là. Mm. Tac, attends, on a vu Héloïse là, on la prend pour ça. Et ça t'apporte énormément. Mais sinon, ouais, donc, pour répondre à ta question d'avant, c'est surtout quand je faisais des Fashion Week et quand je revenais chez moi, que mes potes, ils étaient comme des oufs, en mode, bon, vas-y, tu sais, j'allais au resto avec eux, c'était style limite. Bon, Mathias, tu payes, hein, t'es une star maintenant, hein, t'as fait la dernière Fashion Week, là, on t'a vu. Donc, ouais, t'as ce côté un peu, je sais pas comment dire, les paillettes, les trucs, les gens se mettent eux-mêmes. Parce que toi, quand tu le vis vraiment, bon, t'as ce côté ouf, c'est dingue, hein, c'est dingue, mais t'es plus terre à terre, c'est normal, limite, c'est un métier comme un autre.
Mm-mm.
Et non, on gagne pas des millions non plus.
Oui, ben non, puis surtout, c'est comme tout, il faut faire un métier pour comprendre sa réalité. Et quand on le fait pas, on le voit de loin, et du coup, on le fantasme et on lui prête des choses qu'il n'a pas forcément.
Grave.
Donc, oui, carrément. Et si on devait prendre une semaine, sur une semaine, par exemple, tu bosses combien de.
Alors,
combien de jours ?
Ouais, bah, faut savoir que c'est très aléatoire. C'est-à-dire que je peux ne pas travailler pendant style un mois. Ça peut arriver. Pas souvent, heureusement, mais ça peut arriver. Donc, c'est très aléatoire. Comme je peux travailler 5 jours sur 7 et non-stop pour des clients différents. Mais sinon, là, en ce moment, pour répondre à ta question, je dirais que je travaille, on va dire une fois par semaine, peut-être une fois toutes les deux semaines, parce que je fais beaucoup moins de commercial. Et avec mon agence, la M, on essaie vraiment de viser des clients un peu plus luxe. Donc, on va dire moins de quantité pour plus de qualité.
Ouais, c'est la stratégie qu'on
met en place là depuis quelques mois.
D'accord. Donc c'est ton activité principale aujourd'hui, le mannequinat.
Complètement.
T'as pas d'autres.
Bon, après, j'ai plein de choses à côté parce que ça me laisse le temps de pouvoir. J'adore l'art, je fais beaucoup de peinture, beaucoup de musique à côté, ça me laisse beaucoup de temps libre pour ça.
D'accord.
Ce qui est une chance, donc j'en profite à fond, quoi.
Tu anticipes un peu la suite, tu sais ce que tu vas pouvoir faire après, ou tu profites de l'instant présent et tu te laisses vivre et tu verras plus tard si jamais le mannequinat meurt.
Bah là, depuis un an, c'est vrai que je commence à y penser quand même. Je commence à penser à bon, ça peut s'arrêter bientôt. Je me dis bon, qu'est-ce que tu veux faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, soit ouvrir une affaire dans le sud de la France, rien à voir dans la restauration, rien à voir.
D'accord.
Parce que je suis très attaché à ça, à ce monde-là, en fait.
D'accord.
J'ai baigné dedans depuis gamin. Et je pense que c'est vraiment, même là, en étant mannequin, j'ai toujours dans un coin de ma tête cette idée d'ouvrir ma petite affaire, mon petit truc dans le sud. Peut-être pas dans le sud de la France, mais quelque part, il y a du soleil et la mer.
D'accord. Ouais. Ok.
Soit là, vu que je pars à New York, continue là-dedans. Si ça prend, tant mieux. Et pourquoi pas essayer de mettre un petit pied dans le cinéma là-bas. Là-bas ou ici, je me dis, bon, vu que je suis à l'aise devant la caméra. Pourquoi pas tenter quelque chose là-dedans.
D'accord.
Ça peut être une suite un peu logique. J'ai ça en tête. Après, la musique aussi. Pourquoi pas tenter là-bas quelque chose. Mais bon, j'ai rien sorti. Oui. Je fais ça dans ma petite grotte, en fait. Pour l'instant, je fais ça dans l'ombre. Un jour, ça sortira.
Eh ben, écoute, on espère. On va passer à la dernière partie de notre discussion et on va parler mode.
Ok.
Et de ton look.
D'accord.
Déjà, explique-nous ton look d'aujourd'hui.
Alors, mon look d'aujourd'hui, là, je porte un pantalon Stussy, classique, beige, un peu baggy, des superstars Adidas, noir et blanche, classique, que j'ai acheté il y a 3 jours, que je kiffe. petit col roulé noir, simple, et une veste en cuir chevignon.
Et t'oublies le...
Et le fameux béret.
Le fameux béret.
Et le fameux béret beige. Voilà.
dont t'investis le look depuis, depuis 3 jours.
Voilà.
Mais ça te va pas mal. Hein. En vrai, ça te va pas mal. Ça casse ton look. Il y a un truc.
Ouais, mon côté un peu androgyne, justement. Ouais, ça, surtout que j'ai laissé pousser ma petite moustache. Bon, c'est un duvet moustache. Mais ouais, c'est cool. Ça fait plaisir que ça te plaise.
Et alors, selon toi, quelle est la pièce maîtresse d'un look réussi?
Alors, tu m'aurais posé cette question il y a 3 ans. Je t'aurais dit les chaussures. Mm-hmm. Et là, maintenant. Je te dirais plus la veste ou le chapeau.
Ah oui, tu l'aimes vraiment beaucoup, ton béret.
Ouais, chapeau, veste, chaussures. En vrai, je sais pas, c'est la personne qui... Toi, style aujourd'hui, pour moi, ce qui te met en valeur, là, bon, c'est toi, déjà, mais c'est ta veste aussi. Ta veste est très belle. Ça dépend, en fait. Tu peux avoir un pantalon un peu extravagant qui va faire ressortir ton look, comme tu peux avoir juste un béret qui va donner... quelque chose d'autre. Je pourrais pas te dire exactement une pièce.
D'accord. Mais t'as raison. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense que c'est davantage les chaussures, la veste et le sac. Mais en tant que femme,
ouais, grave. Ouais,
donc,
c'est vrai que
ton, accessoire d'aujourd'hui étant un béret, ça marche.
Ouais,
ça marche.
Ouais, voilà.
Tu fais un métier qui est basé donc sur ton physique, sur ta joliesse, sur ta beauté. Mm-hmm. Est-ce qu'on se trouve beau quand on est mannequin? Est-ce que tu te trouves beau, toi?
Ouais, ça va. Je me trouve potable. Je me trouve très bien à l'intérieur et à l'extérieur, ça va. Mais... Ça va, ouais. Je plais pas physiquement à tout le monde, mais je me plais à moi. Ouais,
Oui, t'as pas de complexe.
Non,
t'es pas...
ça va. Ouais, non. Avant de devenir mannequin, j'avais un petit complexe sur mes jambes que je trouvais trop fines. Mais du coup, depuis que je suis mannequin, non, je l'ai plus. Bon, j'aimerais bien en vrai prendre 5-10 kilos en plus et voilà, avoir des jambes un peu galbées de footballeur. Mais en vrai, ça me dérange pas du tout. Je suis pas mal à l'aise avec ça.
D'accord. Bon,
j'ai fait des campagnes pour Karl en caleçon, en slip. Très à l'aise quoi, au final.
Ouais. Donc c'est pas mal parce qu'en fait, contrairement à beaucoup de filles qui peuvent souffrir dans le métier et qui peuvent, en étant mannequin, avoir des complexes qui naissent. Mm-hmm. Toi, c'est l'inverse. T'avais des complexes avant et désormais, t'en as plus.
Exactement, ouais, c'est ça.
Donc c'est pas mal, c'est tant mieux.
Ça fait l'effet inverse en fait. Ouais, c'est grave cool au final.
Tant mieux. Je vais te poser des questions rapides et tu me...
Réponse rapide.
Voilà, exactement.
Ok.
Shooting ou défilé?
Défilé pour le kiff, shooting pour le chèque.
Ok.
Honnête.
Versace ou Calvin Klein?
Versace.
Comédien ou mannequin? Je pourrais même rajouter comédien, mannequin ou musicien.
Mannequin actuellement, et si Dieu le veut, comédien et musicien.
D'accord. France, Maroc ou États-Unis?
France. Ah ouais.
Basket ou boots?
Basket, sneakers.
Cheveux courts, cheveux longs ou boulet zéro?
Cheveux longs.
Ron Cortage Arena ou Lucky Blue Smith?
Matches avec Koulali. Non, je blague. Lucky Blue Smith.
Ok. Et enfin, si tu devais choisir une femme qui incarne la beauté et la féminité telle que tu l'entends, qui choisirais-tu?
Je dirais Zendaya. Zendaya.
Très, 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 très bon choix. C'est vrai qu'elle est absolument splendide. Enfin,
ouais, elle est sublime.
Elle a fait un film en huis clos.
En couple?
En couple.
Ouais.
En noir et blanc.
Exact, ouais, je l'ai... Incroyable.
Incroyable, ce film. Ouais. Incroyable.
Exact.
Donc, très bon choix. Tu as très bon goût, Mathias.
Merci bien.
En tout cas, un grand merci pour ton temps et tes réponses. Et avec joie de te croiser sur un prochain shooting.
Ben avec grand plaisir. Merci à toi. C'était un régal sans égal.
Thank you.
d'avoir écouté cet épisode de Mannequin etc. Mannequin etc. est un podcast énergie, écrit et incarné par moi, Éloïse Giraud, et c'est une grande joie. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. À la rédaction en chef, Maud Ventura, assistée de Lise Lovati et Nina Minotto. Pour faire connaître ce tout nouveau podcast, parlez-en autour de vous et pourquoi pas le partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute et laissez-nous des étoiles et des commentaires. Et bien sûr, rendez-vous sur energie.fr et sur l'app Energie. À très vite pour un prochain épisode.